Après avoir répondu à toutes les questions de ses adversaires sur différents sujets, et avoir même, lors d'un dernier entretien avec un enseignant de la loi de Moïse, discerné en lui potentiellement quelqu'un ayant le cœur ouvert, Jésus va maintenant prendre la main. Et il va le faire en posant lui aussi une question, la plus importante qui soit, la seule qui soit en fait. Car elle est au centre de son ministère, de son appel, de son enseignement, au centre de sa mission. En définitive, elle était au centre de toutes les discussions que Jésus a eues avec les différentes représentations de l'autorité politique et religieuse. Tout tourne en fait autour de la question que Jésus va maintenant poser, que nous allons lire dans l'évangile de Marc, donc toujours chapitre 12, les versets 35 à 37. Jésus continuait à enseigner dans le temple, il dit « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ?» En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle « Seigneur ». Comment peut-il être son fils ? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. La question fondamentale que les contemporains de notre Seigneur devaient se poser, et quelque part que les hommes d'aujourd'hui doivent se poser également, est donc celle-ci. Qui est vraiment Jésus ? Et de qui est-il le fils, surtout ? Jésus cite ici le verset 1 du psaume 110. Et de toute évidence, les autorités politiques et religieuses ne reconnaissaient pas Jésus comme Messie, ça nous l'avons bien compris, et n'attendaient pas non plus un Messie autre que simplement humain. Il est à noter que c'est ici la dernière parole que Jésus adressera aux responsables du peuple d'Israël, et cette parole, comme par hasard, concerne son identité. C'est donc la dernière chance pour eux d'ouvrir leur cœur à la réalité que Jésus est Dieu incarné. Alors bien sûr, les scribes ont toujours enseigné que le Messie descendrait de la lignée de David. Ça, ils le savaient et ils l'enseignaient. Mais bien que vraie, cette affirmation ne correspondait pas à toute la vérité. Et c'est la raison pour laquelle Jésus soumet ce problème à ceux qui étaient rassemblés autour de lui dans le parvis du temple. Au psaume 110, verset 1, donc, le roi David parle du Messie à venir comme de son Seigneur. Comment peut-on concilier ces deux vérités ? Comment le Messie pouvait-il être à la fois le fils du roi David, donc son descendant, et son Seigneur ? Alors, la réponse est, me semble-t-il, limpide pour qui a le désir d'entendre le Messie est homme et Dieu. En tant que fils descendant de David, il est homme. En tant que Seigneur de David, il est Dieu. Il faut aussi relever que Jésus dit explicitement que c'est animé par l'Esprit Saint que le roi David a dit ces choses. Jésus affirme le sceau de l'Esprit sur cette parole, ce qui ne laisse en fait plus aucune place pour la discussion. Rappelons-nous aussi que « fils de David » est la salutation par laquelle la foule a accueilli Jésus lors de son entrée à Jérusalem. 48 heures auparavant, donc le dimanche. Il est donc quelque part légitime que Jésus les fasse réfléchir sur le sens de cette appellation qu'ils ont eux-mêmes utilisée. Il va donc placer tout son petit monde devant la question importante. Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? Alors je l'ai dit, ils avaient tous compris que le Messie devait être un descendant de la lignée royale. Alors la question qu'on peut se poser, et que quelque part Jésus leur pose à travers cette question, c'est comment se fait-il qu'ils n'aient pas fait le lien ? Ils passaient leur vie à étudier les textes, à scruter les Écritures, pendant des heures et des heures et des heures, quasi la totalité de leur emploi du temps était consacrée à cette activité. Alors comment se fait-il qu'ils ne se soient pas posés eux-mêmes cette question ? Puisque le texte reprend deux fois le terme Adonai. Et c'est le tétagramme, je vous ai expliqué. Hein. Donc c'est le nom, ce sont les quatre lettres qui constituent le véritable nom de Dieu, que les Juifs remplaçaient par Seigneur, par Adonai, par respect pour le nom saint de Dieu. C'est donc deux fois ce terme qui apparaît dans le psaume 110. Ils auraient donc dû commencer à se poser de bonnes questions. Quel est ce Seigneur qui porte le même nom que l'Éternel lui-même et qui doit venir. Alors, ils n'ont pas compris ou ils n'ont pas vu, ils n'ont pas discerné pour une simple et bonne raison, et c'est quelque part quelque chose qui doit nous interpeller, me semble-t-il, parce que nous sommes nous aussi des étudiants de la Bible. Les enseignants de la loi de Moïse, les scribes, n'appliquaient pas le psaume 110, verset 1, au Messie. C'est aussi bête que ça. Pour eux, ce texte ne parlait pas du Messie. Je rappelle quand même que sur tout le psautier, 150 psaumes, il y en a 16 qui sont authentifiés par l'Église, bien entendu, hein, pas par les Juifs, mais par l'Église comme étant éminemment messianique, prophétique concernant le Messie. Alors 16 sur 150, c'est déjà pas si mal. Ils auraient peut-être dû capter quelque chose de leur Messie à venir et de sa divinité, en tout cas de son sacrifice et de sa souffrance, à travers tous ces psaumes. Ils auraient pu discerner en ce psaume 110 la messianité de Jésus, surtout paroles, enseignements et actes de Jésus à l'appui. Il fallait donc discerner dans ce psaume les deux natures du Messie à venir. Évidemment, et c'est là que je dis qu'il faut que nous réfléchissions nous aussi, éluder les questions en niant ce que la question soulève, c'est se condamner à passer à côté de l'essentiel qui était ici de prendre conscience que le Messie ne procéderait pas seulement d'une lignée humaine, mais qu'il aurait aussi une origine divine. Pour le relever, il aurait fallu que les enseignants de l'Ancienne Alliance s'interrogent bel et bien sur le « qui est ce Seigneur dont parle David et auquel il va de toute évidence, d'après ce psaume, se soumettre ?» Alors ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas tenté d'identifier de qui parlait réellement ce psaume, et pas plus qu'ils ne le feront par rapport à Jésus lui-même. Ils ne cherchent pas à savoir qui il est. Quelque part, un groupe est à un moment venu vers Jean-Baptiste, lui demander s'il n'était pas le Messie, alors qu'il faisait aucun miracle. Jésus, à ma connaissance, évangile en main, personne n'est jamais venu lui demander ouvertement « Est-ce que tu es le Messie ?» Toutefois, leur absence de démarche, et il faut le dire, permettra à Jésus d'accomplir parfaitement sa mission. Car le Messie, qu'il est et qu'il veut être, est totalement différent de celui qu'attendent les enseignants de la loi. Autrement dit, Jésus ne peut pas livrer ouvertement à tous le secret lié à ce nom de Christ sans apporter un obstacle à la réalisation de sa mission. Le dire, c'est risquer qu'ils en fassent véritablement leur roi politique au moment même, alors que ce n'était pas là la mission de Jésus. Parce qu'il fallait qu'il devienne, par son sacrifice et sa mort, le Christ qu'il est par appel reçu, qu'il a reçu lors de son baptême, un Messie souffrant et mourant pour le péché du monde. Sa véritable mission doit donc rester cachée pour un temps à la multitude qui aurait fait de lui un Messie triomphant, échouant dès lors à sauver forcément qui que ce soit. Être triomphant et se faire reconnaître par le luxe et la splendeur, sortir du rôle de serviteur est la grande tentation de la vie de Jésus, je pense qu'on l'oublie trop souvent, tentation dont le diable est à l'origine, reprenez les tentations du désert, si vous les résumez, en gros, c'est ce que le diable tente de faire. Il propose à Jésus d'être un Messie ne passant pas par la souffrance, un Messie qui renie sa mission, le but réel pour lequel il est venu sur cette terre. Et on comprend mieux dès lors, puisque cette mission doit quand même rester voilée et cachée, on comprend mieux toutes les nombreuses interdictions que Jésus a prescrites à tous ceux et celles qu'il a guéris de maladies diverses et variées. Rappelez-vous, chaque fois, tu ne diras rien à personne, etc., comme pour préserver ce secret. En résumé, celui qui régnerait dans le royaume de Dieu serait donc bien, comme l'affirme le psaume 110, non pas seulement le descendant, mais aussi le Seigneur de David. Le Messie sera donc, une fois le royaume venu, le supérieur du David ressuscité et glorifié, le roi des rois, titre messianique et divin s'il en est. Alors, il y a encore une petite chose que Marc aurait pu vouloir mettre en exergue, c'est qu'il était en effet courant que les enseignants juifs relient les versets d'un passage à un mot-clé. Et dans notre verset 1 du psaume 110, ce mot-clé, de toute évidence, c'est Seigneur, c'est Adonai, c'est Yahvé. Parce que justement, ce Yahvé, rappelez-vous, aurait dû leur faire penser à cette proclamation de foi de Deutéronome 6, verset 4, le chemin à Israël que je vous ai cité la semaine passée, « Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Éternel. » Alors si c'est ça que Marc a à l'esprit, et c'est fort probable, Il y a donc dans ce passage une affirmation forte de la divinité de Jésus. Moi, je me rappelle très bien la première fois que je suis tombé sur ce psaume, il y a des années de ça, forcément, ben, je ne comprenais pas non plus de qui parlait, qui était ce Seigneur dont parlait David, qui allait être quelque part son supérieur, son descendant. Alors finalement, on m'a vite expliqué qui c'était, mais je me suis au moins posé la question, ça m'interpellait quelque part. Donc c'est vrai que c'est quand même difficilement compréhensible que nos amis juifs ne se soient pas posés ce genre de questions. Dans un autre cas, je fais une petite parenthèse, Ésaïe 53, ils y voient Israël et pas Jésus, n'est pas le Messie en fait. Si on prend les quatre chants du serviteur toujours dans Ésaïe, ben, les juifs considèrent qu'on parle d'Israël. Quand on prend Daniel 7, la venue, la vision que Daniel a de la venue du Messie sur la terre en fait, ils y voient aussi une figure d'Israël. Ben, voilà. Quand on veut voir quelque chose dans un texte et ne pas s'ouvrir encore une fois à d'autres possibilités, ben, on ferme son cœur bien entendu à ce que Dieu pourrait y mettre. Le Messie est donc là, dans la cour de ce qui devrait être son temple, et dans 3 jours, il sera crucifié pour nous. Alors tout ça nous paraît tellement évident, alors qu'à la résurrection, la venue du Messie, du descendant davidique, a été, mes amis, tout sauf une évidence. Dès l'annonce de la première promesse messianique en Genèse 3,15, vous vous rappelez ce que Dieu dit à la femme par rapport au serpent, tu lui écraseras la tête et il te mordra le talon. C'est la première prophétie messianique, annonce messianique. Et on est à peine dans le livre de la Genèse. Eh bien, à partir de cette promesse, Satan a tout fait pour que le descendant de la lignée royale de David ne voie pas le jour. Il a d'abord multiplié les intrigues, en comptant déjà que Dieu renie David après son péché avec Bathsheba et le meurtre d'Uri. Rappelez, le risque courait David, c'est qu'il soit destitué et que sa lignée soit éradiqué, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, il y a eu le schisme d'Israël en 2 royaumes. L'un au nord, qui sera donc Israël, et l'autre au sud, Juda. Alors, on ne s'en rend sans doute pas compte, parce qu'on lit, quand on lit les chroniques et les livres des rois, on a un peu tendance à faire simplement de l'histoire et surtout à énumérer une série ininterrompue de rois qui se succèdent les uns aux autres, certains, enfin, la plupart mauvais et certains quand même un peu bons. Donc on ne se rend pas compte, mais à force d'idolâtrie, de complot, d'assassinat politique en tout genre, la lignée royale de David, d'où devait sortir le Messie, a été à un cheveu de s'éteindre, à un héritier près de disparaître. Alors je vous propose de faire un petit peu d'histoire. Joram, le bien-nommé, fils du roi Josaphat, un bon roi de Juda, ça existait, je l'ai dit, monte sur le trône à la mort de son père, quoique de plus normal. Une fois son pouvoir consolidé, il fait exécuter tous ses frères. Ça part pas vraiment bien. Pourquoi ? Parce que potentiellement, sans doute que ses frères étaient des rivaux potentiels. Il fait exécuter tous ses frères et il s'arrête par là. Il épouse aussi Athalie. Athalie qui est la fille d'Akab, le roi d'Israël, du royaume du nord de l'époque. Le pire roi d'Israël. On se rappelle qu'Akab, donc ce roi d'Israël de sinistre mémoire, est mari de Jézabel. Vous vous rappelez aussi Jézabel, ça vous dit quand même, j'espère, vaguement quelque chose. Alors, Joram va subir lui aussi l'influence néfaste de sa femme, influence qui va bien entendu l'entraîner dans des dérives idolâtres abominables, tout comme sa mère Jézabel l'avait fait pour Akab. Donc, les royaumes du Nord et de Juda vont fusionner au travers de cette alliance d'une manière absolument horrible. À la mort de Joram, c'est son plus jeune fils, Akazia, qui monte sur le trône. Alors, plus jeune fils, ça devrait nous étonner, parce que où est passé l'aîné ? Eh bien, tous les autres fils plus âgés ont été exécutés lors de la mise à sac du palais royal de Jérusalem par les tribus arabes. On peut lire ça dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 21. Le texte nous dit que c'est un peu Dieu, quand même, qui a dirigé cette invasion pour punir l'idolâtrie de la couronne de Juda. Akazia va lui aussi suivre les conseils d'Athalie, sa mère, et pousser encore un peu plus le royaume de Juda dans l'idolâtrie. Donc le cadet, le dernier survivant, il ne va pas faire mieux que ses frères massacrés ou que son père, il va continuer à pousser Juda dans les bras de l'idolâtrie. Akazia mourra lui aussi, de manière violente, de la main de Jéhu, selon ce qu'avait annoncé l'Éternel, ainsi que tous les enfants de ses frères. Il avait sollicité cette famille de Jéhu pour massacrer et exterminer cette partie de la lignée de Juda pour idolâtrie. En apprenant la mort de son fils, le roi Akasia, et des enfants de ses frères, ses petits-enfants donc, Athalie, la grand-mère, donc, décide, c'est assez comique pour une grand-mère, décide d'exterminer toute la lignée royale de Juda. Je rappelle qu'elle est descendante du royaume du Nord. Et là, elle décide d'exterminer toute la lignée royale de Juda. Elle règne ensuite, dit la Bible, 6 ans sur Juda et Jérusalem. Elle a exterminé toute la lignée davidique. Le Messie ne sait plus venir. Sauf que, et on va prendre 2 Chroniques 22, c'est ce qu'il me dit souvent, vous rappelez-vous, qu'il suffit d'un homme et d'une femme qui fait ce qui est juste. C'est la bonne nouvelle. Dieu n'a pas besoin de 100 000 personnes qui fassent le bien. Une, ça suffit. Surtout dans les pires des circonstances. Quand Athalie, la mère d'Azachia, vit que son fils était mort, elle se leva et fit disparaître toute la descendance royale de la communauté de Juda. Cependant, la fille du roi, prit Joas, le fils d'Akasia, donc un dernier de la lignée, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. Josabet, fille du roi Joram, femme du prêtre Yehoada et sœur d'Akasia, le cacha ainsi à Athalie, et celle-ci ne le fit pas mourir, tout simplement parce qu'elle ne le trouva pas. Il est donc resté 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, tandis qu'Athalie régnait sur le pays, le temps que le petit grandisse et qu'il atteigne la majorité, en tout cas la majorité pour régner. Alors vous avez bien compris ce qui était en jeu ici. Si sa tante Yocheba n'avait pas sauvé son neveu Joas, alors âgé d'un an, des griffes de sa grand-mère Athalie, c'en était fini de la dynastie royale de Juda, et par la même occasion, c'en était fini de l'espérance de voir un jour le Messie sortir de cette lignée. Jamais la lignée royale ne fut plus en danger qu'à cette époque. Heureusement que la providence divine veillait. D'ailleurs, je trouve qu'il est très émouvant d'apprendre à travers ces lignes que c'est dans le temple que le bébé, dernier rejeton de la lignée de Juda, fut placé pour être protégé, confié à la garde de Yehoada, le grand prêtre fidèle de l'époque, même s'il devait subir l'idolâtrie ambiante du temple. Il y avait des statues dans le temple, dans d'autres pièces. Le temple dédié à l'Éternel. Il y avait des statues et on s'y prosternait devant des faux dieux. Alors le symbole me semble fort. Le petit Joas a vraiment habité la maison de Dieu. Il a habité pendant 6 ans dans la maison de Dieu. Même si je viens de le dire, à l'époque, notre Dieu en question devait la partager avec bien d'autres. Les dernières fortes tentatives d'éradiquer la prophétie concernant le Messie Sauveur furent toutes les tentations subies par notre Seigneur. Je passe, parce qu'il y a d'autres épisodes, bien sûr, dans l'histoire d'Israël. La dernière de ces tentations, rappelez-vous, étant celle de se sauver lui-même en descendant de la croix. Beaucoup de gens ont du mal à discerner la présence de Dieu à la croix, quand on voit l'agonie de son fils. Par contre, la présence du diable, on peut difficilement placer à côté, entre autres à travers les invectives de la foule. Il voulait sauver le monde, qu'il se sauve lui-même et qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. C'était encore une dernière tentative de le pousser à sortir de sa mission, d'aller jusqu'à la mort pour notre péché et pour notre salut. Alors que l'enjeu avait toujours été de ne pas se sauver lui, afin de nous sauver nous. C'était ça l'enjeu. Jésus le dira d'ailleurs lui-même dans l'évangile de Jean, « Maintenant mon cœur est troublé, que dirais-je ? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure de souffrance, mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu, il dit ça dans le jardin. » S'il avait cédé une seule fois, c'en était fini du plan rédempteur de Dieu. Céder une seule fois pour le mettre en place à la tête d'Israël et du monde en tant que Messie glorieux, alors qu'il était ici pour être un Messie souffrant. Une seule fois. S'il avait cédé une seule fois, c'en était fini du plan rédempteur de Dieu. Comprend mieux l'importance de toutes ces références dans l'Évangile, que l'on croit souvent, le fait que Jésus n'ait pas péché, le fait qu'il ait renvoyé la foule parfois, qu'il s'extirpait d'autres moments où la foule commençait à croire, en lui, quelque part, et voulait le mettre sur le trône d'Israël. Chaque fois, il fuit, parce qu'il sait que ce n'est pas sa voie et ce n'est pas sa mission. Mais c'est quand même fou de se dire s'il avait cédé une seule fois, ce qui prouve qu'il n'a pas péché une seule fois. Donc c'est tout ça qui constitue l'arrière-plan de cette dernière semaine de notre Seigneur et Sauveur à Jérusalem, et on comprend la concentration de toutes les forces démoniaques à ce moment-là, pour la seule bonne raison que ça va devenir court au niveau du temps pour le faire rentrer dans le plan machiavélique que le diable a pour lui, à savoir en faire un Messie triomphant. Donc depuis cette fameuse première promesse messianique prononcée par la bouche même de Dieu, à l'intention du serpent, c'est la venue du Messie qui a été au centre du combat entre la lumière et les ténèbres. Maintenant, au centre du combat, bien entendu, c'est la destruction de tout rapport à Dieu, évidemment, et la persécution de l'Église. On avait qu'à relire l'Apocalypse. Hein. C'est assez clair, me semble-t-il. Rappelez que l'Apocalypse est une BD, donc c'est un livre d'images. En particulier au travers de la vie des patriarches et de leurs descendants, le peuple juif. Le salut du monde s'est donc joué pendant des siècles dans un minuscule petit pays du Moyen-Orient dont personne ne parlait et dont personne ne parle aujourd'hui. Moi, j'ai jamais eu un cours sur Israël, nulle part, ni sur la Shoah. Aujourd'hui, je pense que dans certaines écoles, c'est au programme. Moi, j'ai jamais eu un cours. Avant de devenir chrétien, Israël, je savais vaguement où ça se trouvait, mais je ne connaissais rien de l'histoire d'Israël. Et pourtant, tout est absolument concentré sur ce pays. Donc tout s'est joué, le salut du monde se joue au rythme de son histoire et de ses déboires politiques et militaires. Et ça continue aujourd'hui. Un petit pays sans importance aux yeux du monde, mais sur lequel le regard de Dieu a toujours été posé et reste posé. Ce qui me permet d'affirmer qu'Israël demeure l'horloge de l'histoire et Dieu regarde en permanence l'heure qu'il est. Alors la question du Sauveur sous l'identité exacte de ce Seigneur de David, Matthieu nous dit que personne ne répond. Marc n'a pas cette mention, mais Matthieu nous dit en Matthieu 22, verset 46, personne ne répond à cette question parce qu'ils ne savent pas. Il se fait donc un silence significatif, très lourd de sens. Quelques semaines plus tard, et ça c'est très intéressant, après la Pentecôte, après la venue de l'Esprit, et donc la naissance de l'Église, lors de sa première prédication, Pierre va utiliser ce même verset du psaume 110 et en donnera l'interprétation. Je vous cite une partie. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Je rappelle que la résurrection, personne n'a vu la résurrection, mais tous, beaucoup ont été témoins du fait que Jésus était ressuscité. C'est donc un témoignage qu'il livre, ce n'est pas d'abord une doctrine qu'il cherche à vendre, c'est important de le rappeler. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre interprète le psaume 110 dans une dimension messianique. Ce Jésus que vous avez crucifié est le Seigneur de David. Et la résultante, c'est que 3000 juifs se convertissent. Ils ont dû se sentir légèrement mal. Il faut réétudier les discours de Pierre dans les actes. C'est vraiment intéressant, vraiment. Alors l'Évangile nous dit que la foule écoutait Jésus avec plaisir. Alors c'est assez comique parce que là aussi, elle ne comprenait pas grand-chose, la foule. Et on verra que quelques jours plus tard, elle dira « crucifie-le ». Ben, elle prend du plaisir parce qu'elle s'est réjouie de voir les scribes pris au dépourvu. Et ça les amusait, la foule. Ils passaient pour des moins que rien, souvent, aux yeux des enseignants d'Israël. Et là, Jésus les coince. Donc forcément, la foule jubile. Cette disposition la rendait propre à recevoir le sévère avertissement que Jésus fait entendre concernant l'attitude des enseignants de la loi. D'ailleurs, si vous avez un peu le temps, cette semaine, je vous invite à relire chez vous le discours parallèle de Matthieu, mais où Jésus charge vraiment violemment les pharisiens, toute la diatribe, pharisiens hypocrites, etc. Le chapitre 23 de Matthieu en est rempli. Marc 12, verset 38-40, que nous allons prendre, n'en reproduit que quelques paroles adressées au peuple dans lesquelles Jésus met justement en garde le peuple contre l'esprit qui anime leur conducteur spirituel. Et c'était intéressant de relever cette mention de Jésus, parce que cela prouve une chose, c'est que Jésus sait très bien que La fin des temps ne viendra pas avec sa mise à mort, ni avec sa résurrection. Il dit donc au peuple d'Israël, faites attention, ils sont comme ça, ils continueront à être comme ça, à vous leurrer, à vous perdre. Parce qu'il sait qu'ils vont encore subir cet enseignement pendant, ça fait combien de temps ? 2000 ans. Alors, cet esprit dont Jésus va parler maintenant, qui habite et qui anime les conducteurs d'Israël, peut aussi animer les conducteurs de l'Église. Ça, nous sommes des hommes. Ne pas trop charger les responsables religieux juifs et ne pas faire un parallèle avec parfois ce que nous pouvons éprouver en tant que responsables chrétiens. Donc la description que Jésus va à présent faire des scribes est donc à méditer, me semble-t-il. Ce sont donc les trois versets qui suivent, les versets que nous venons prendre, Marc 12, 38, 40. Il leur disait dans son enseignement, attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en longues robes et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant, pour l'apparence, de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Ça, parallèle avec cette affirmation assez terrible de Jacques, ne soyez pas trop nombreux parmi vous, mes frères, à vouloir enseigner, sachant que les enseignants seront jugés plus sévèrement que les autres. C'est une phrase que j'adore, à titre personnel. Et quand on passe un peu de temps sur Internet et qu'on va écouter des messages de certains pasteurs, que je ne nommerai pas, il y a de tout, vraiment de tout. Et pour garder la ligne, croyez-moi, ce n'est pas toujours simple. Alors, il est intéressant de noter que le texte grec que nous venons de lire dit au sujet des scribes qu'ils veulent se promener en longue robe. Donc, nos traductions françaises ne sont pas très justes à ce niveau-là. Mais... Donc, ils désirent, littéralement, se promener en longue robe. Ce verbe « tello » a aussi pour objet tout ce qui suit. Donc, ils désirent les salutations, les premiers sièges, les premières places, etc. Ils veulent ça. Ça va être comique de se dire « ils veulent se promener en longue robe ». Ce verbe a le sens donc de « avoir l'intention », de « avoir à l'esprit » ceci ou cela. Ce verbe a donc son importance car « vouloir » rend souvent mauvaise une chose indifférente. Quel est le problème à l'époque de se promener en robe puisque tout le monde se promène en robe? Oui, mais ça dépend pourquoi tu te promènes en robe. Déjà à l'époque. Même si au niveau vestimentaire, c'était comme ça que tout le monde se promenait. Que peut-il y avoir de plus anodin et indifférent que de se promener en robe ou d'aller à la synagogue, puisque tout le monde le faisait? Sauf si on le fait avec une intention cachée. De nos jours également, dans certaines églises, les pasteurs sont parfois assis sur une estrade, voire sur des sièges qui ressemblent à des trônes, je vous assure que c'est vrai. Et certains d'entre eux finissent donc par aller au culte pour être assis sur un trône, et plus pour y faire ce qu'ils sont supposés y faire. Je me rappelle, lors de l'enterrement d'un ami, en 2007, je pense, où Isabelle m'accompagnait au Christian Center, on est venu me séparer de ma femme pour me mettre sur un trône, parce que c'est moi qui allais apporter la parole de Dieu. Et j'ai dit, moi je préfère être à côté de ma femme. J'ai réintégré la foule des Manon. Je ne sais pas comment il faut dire. Il y avait, tu rappelles, il fallait que je sois assis sur... Donc, contrairement à ce que certains peuvent peut-être penser de moi, je n'ai jamais voulu finir sur un trône. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Souvent très mal assis, en fait, sur ce genre de truc. Donc, la volonté, donc ce que l'on veut, est toujours du parti des affections, bonnes ou mauvaises. Et il faut parfois faire attention à nos affections. Donc, ces longues robes auxquelles tenaient tant les scribes, ces salutations, cette déférence qu'ils recherchaient dans les places publiques, était chez eux le signe certain de la vanité qu'ils tiraient de leur rang, de leur profession et de leur statut, alors qu'en tant qu'enseignants, ils étaient des serviteurs de Dieu, dont leur attitude était totalement paradoxale par rapport à la nature de leur cœur, enfin de la nature qu'aurait dû revêtir leur cœur, à savoir un esprit de service et de dédication. Le fait qu'ils prétendaient au premier siège dans les synagogues, aussi bien qu'aux premières places dans les festins, dénotait cet orgueil qui veut briller et dominer dans les cérémonies religieuses comme dans la vie civile, comme si tout cela était en accord avec la pensée de Dieu. Quant aux longues prières, pour en parler aussi, elles ne sont bien entendu pas un problème, sauf à mon sens si elles dépassent les 10 minutes, parce que quand on parle de prières publiques, ce sont des prières qui sont faites en public. Et c'est profondément pénible. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens désertent les réunions de prière. Donc c'est un problème si leur fonction est de démontrer combien on est spirituel et au-dessus du commun des mortels. Et je vous assure que ça marche. Moi, je me rappelle d'un culte où des campeurs du camp de Genneval étaient venus participer au camp à Brindes, puisque géographiquement, c'était le plus proche. C'était un camp que j'animais. Nous avons donc été à Brindes-la-Lule, l'église où j'étais pasteur à l'époque, pour assister au culte. Et c'était ces vieux frères qui ont pris le moment de prière à leur compte, avec des prières interminables, commençant à la Genèse et terminant par l'Apocalypse, qui a eu comme effet immédiat qu'après ça, plus aucun membre de l'église n'a osé ouvrir la bouche. Tellement c'était magnifique et grandiloquent, extraordinaire. Voilà. Donc si le but c'est de montrer, de démontrer à tout le monde qu'on est plus spirituel que son voisin, et c'est un piège qui nous guette tous malgré tout. Hein. Pas trop ici je pense. Hein. Malheureusement, là, ici on a le problème peut-être un peu inverse. C'est qu'on a peur de s'exprimer en public. Donc quand on prie, l'important est que notre disposition de cœur permette à Dieu d'écouter notre prière. Qui plus est, quand on s'écoute parler ou prier, on a déjà la réponse à sa prière, hein, la gloire personnelle qu'on en retire. Mais il ne faut certainement pas penser que Dieu a entendu cette prière ou la reçoit. Alors une dernière scène nous est proposée par Marc avant que Jésus ne quitte les parvis du temple pour s'en retourner à Béthanie. C'est celle d'une pauvre veuve venue déposer son obol dans un des troncs du temple. Et on prend ce texte donc, je continue les versets, hein. Marc 12, versets 41 à 43. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi, elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors, il faut savoir qu'il y avait 13 troncs, pas mal, hein, pour recueillir les offrandes des fidèles. Et ces troncs étaient situés dans le parvis des femmes. Je vous rappelle, il y a une autre coupe qui suit, je pense, vue d'en haut par hélicoptère. Je n'ai pas besoin d'aller vous montrer le parvis des femmes, vous l'avez repéré. Hein. C'est le même vue d'en haut. Donc, c'est là que étaient disposés les 13 troncs, destiné à recueillir donc les dons, les offrandes des uns et des autres. Alors pourquoi dans le parvis des femmes? Ben, il fallait que les hommes puissent y aller aussi. Les femmes ne pouvaient pas aller sur le parvis des hommes. Par contre, pour aller dans leur parvis à eux, ben, les hommes devaient passer par le parvis des femmes. C'était donc au niveau financier plus intéressant de les placer là. Vous comprenez? C'était tactique. Ces 13 troncs étaient insérés dans un mur et portaient le nom de chauffard ou trompette, car leur forme faisait penser à cet instrument. La partie ouverte et évasée émergeait à fleur de mur afin que l'on puisse y glisser aisément les pièces. Ces trompettes portaient également une inscription quant à la destination de l'offrande, même si tous les dons finissaient dans le trésor du temple. Alors le contraste entre cette pauvre veuve manquant du strict nécessaire et donnant tout ce qu'elle a, et les riches qui donnent beaucoup, mais uniquement de leur superflu, et je pense, saisissant. Cela l'est d'autant plus quand on sait que le temple était supposé prendre en charge financièrement les veuves nécessiteuses, et que cette aide devait venir des deniers du temple. C'est d'ailleurs pour ça qu'on versait cette somme, parfois pour les veuves spécifiquement, au temple. Alors le pire, c'est que Jésus sait, lui, très bien, c'est que l'aide à apporter à cette veuve, y compris sa propre contribution, serait engloutie par le faste du temple lui-même, qui était absolument prodigieux. On parlera peut-être de ça la semaine qui vient, mais ça, selon certaines sources, je ne sais pas s'il faut vraiment tout à fait s'y fier, selon certaines sources, le général romain Titus, qui a fini par faire détruire le temple et le faire brûler, etc., aurait hésité, entre autres, à cause de la beauté de ce temple. Mais c'est à prendre avec des pincettes. Enfin, tout ça pour dire que quand l'institution religieuse et son décorum prend la place de l'humain, et je ne vise aucune église existante aujourd'hui, on est dans la fausse religion ou tout le moins dans une fausse expression de celle-ci. Quand on a des grosses bagues en or à tous ses doigts et qu'on s'est appelé Monseigneur, il y aura peut-être des questions à se poser. Il faut savoir également que le nombre de veuves à Jérusalem était bien plus élevé que partout ailleurs dans le pays. Alors ça peut paraître étrange, on dit tiens pourquoi ? Ben, je vais vous expliquer. Ça s'explique en fait par le fait que de nombreux rabbins enseignaient que la résurrection des corps n'aurait lieu qu'à Jérusalem. Uniquement là. Ce qui signifie que les autres cadavres ou ossements de ceux et celles décédés ailleurs seraient obligés de ramper sous terre pour rejoindre la ville sainte afin d'y être ressuscités. Et je ne plaisante pas. C'est donc pour éviter ce désagrément que de nombreux juifs, à la fin de leur vie, se rendaient à Jérusalem pour y mourir, laissant derrière eux un nombre toujours plus grand de veuves, parce que vu que l'expérience de vie des femmes était déjà à l'époque supérieure à celle des hommes, les rabbins mouraient et leurs veuves restaient là, démunies pour la plupart, sans rien, à Jérusalem. Et si ces veuves étaient sans ressources, c'est-à-dire sans famille, ce sont donc les synagogues qui avaient la responsabilité de pourvoir leurs besoins. Mais au vu de ce que je viens de dire concernant le nombre de veuves, les synagogues de Jérusalem avaient bien du mal à s'acquitter de leur tâche. Rappelez-vous, c'est la même problématique qui poussera les apôtres à faire élire par l'Église de Jérusalem les 7 premiers diacres de son histoire, c'est pour ça, pour prendre soin des plus nécessiteux, et qui poussera Paul à demander aux églises de tenir une liste des veuves afin de pourvoir leurs besoins sur certaines conditions. Il écrit ça entre autres à Timothée. Il fallait donc avoir une liste de veuves à aider financièrement. Uniquement les veuves qui s'étaient consacrées à Dieu à fond, jusqu'à plus de 60 ans, à l'époque l'espérance de vie était à 35-40, ben, ça vous situe. Hein. Et les jeunes veuves, ben, Paul dit, si vous ne savez pas vous contenir sexuellement, on n'a qu'à vous marier, ou vous remarier plutôt, avec un chrétien, il précise ça en 1 Corinthiens 7. Donc cette pauvre veuve, ce qui est donc un pléonasme, présente dans le parvis des femmes ce jour-là, a donc donné tout ce qu'elle possédait pour vivre, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Alors certains ont considéré que cette attitude n'était pas raisonnable. Il y a des gens, dès qu'on parle de données, ils ne trouvent pas ça raisonnable. Ils se demandent pourquoi. Hein. Et qu'elle reflétait la mentalité religieuse de l'époque. Tout faire extérieurement pour plaire à Dieu. Alors c'est peut-être vrai. Ou alors on peut y déceler, et c'est ce que Jésus fait, me semble-t-il, un amour pour Dieu profond et véritable. Elle donne le peu qu'elle a parce qu'elle sait que Dieu est celui qui prendra soin d'elle. C'est cette attitude absolue de foi que Jésus remarque. Du moins, c'est ma lecture. De plus, elle sait que le cœur de Dieu est auprès des veuves. Tout l'Ancien Testament, et en particulier les livres prophétiques, l'affirme. Le psaume 68, par exemple, déclare « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. » Et un autre texte, un autre psaume dit « Mon père et ma mère m'abandonneraient, que toi, Seigneur, tu ne m'abandonnerais jamais. » Lorsque ce récit nous enseigne, ainsi que tout le contexte sociologique et religieux de l'époque, c'est que Dieu passe par des hommes pour prendre soin des plus fragiles parmi nous, qu'il confie cette responsabilité à son peuple Israël avant la Pentecôte, l'Église après celle-ci. Ce passage de l'Évangile de Marc ne peut que nous interpeller quant à nos priorités financières et à quoi nous dépensons nos sous. Cette pauvre veuve n'avait rien, et le peu qu'elle avait, c'est-à-dire 2 leptons en grec, dont 2 pièces de cuivre, le 1/8 d'un as, autrement dit quelques centimes, rien en somme, ben ce rien, elle l'a donné à Dieu. Mais ce rien aux yeux de Jésus, c'est énorme, car il regarde au cœur de celui qui donne. On se rappellera aussi que l'un des reproches adressés aux enseignants de la loi par Jésus est de dévorer les maisons des veuves. Alors certains pensent que Jésus condamne par ces mots une pratique fortement répandue parmi les enseignants de la loi de l'époque, de venir se restaurer chez les veuves ou d'exiger d'elles jusqu'à une dîme de 30%. La dîme c'est 10, hein, je rappelle, de 30%, à laquelle il fallait encore ajouter les impôts imposés par Rome. Hein. Certaines veuves possédant leur habitation n'arrivaient donc parfois à devoir vendre leur maison pour pouvoir nourrir les scribes. Cette pratique de délester les plus pauvres du peu qu'ils ont sous couvert du religieux est encore bien présente dans de nombreuses cultures. J'aimerais dire que c'est fini, mais ça existe encore. Je me rappelle d'une femme d'une quarantaine d'années rwandaise réfugiée du génocide que j'avais visitée à la maison à l'Églantier, la maison pour les femmes en difficulté de vie, qui avait fini par obtenir un logement social à Waterloo. Et on avait pris rendez-vous, donc je suis arrivé chez elle un matin à 11h, et elle avait rien, elle avait un revenu d'intégration sociale, donc quasi rien. Je suis arrivé, la table était remplie de nourriture. Parce que j'étais pasteur, c'était son rôle de dépenser tout son argent pour m'offrir des choses et pour m'inviter à manger. J'ai dû expliquer qu'ici, elle était en Belgique. Mais ça donne une idée de comment ça fonctionnait dans son pays d'origine. L'habitude de dire, vous le savez, que dans certains pays, les seuls qui ont le ventre gonflé par autre chose que la faim, ce sont les pasteurs. Comme le dit Jésus, pour les scribes, ils seront eux aussi jugés plus sévèrement que les autres. Les trois premiers jours de cette dernière semaine, si cruciale pour l'histoire de l'humanité, démontrent l'hypocrisie religieuse, la vanité et l'aveuglement des responsables du peuple juif. Et cela remontait à loin, rappelez-vous, ce que Jésus enseigne dans la parabole des vignerons. Tous les prophètes envoyés, donc ça remonte à très loin, cette attitude du peuple. Ce n'est pas nouveau. C'est aussi la patience de Dieu qui a été mise à rude épreuve. Et on arrive au bout de la patience de Dieu, en tout cas envers Israël, pour le moment. Je rappelle encore une fois qu'ils seront sauvés lors du retour de notre Seigneur. Le peuple, parlons du peuple, on a beaucoup parlé des enseignants, mais parlons du peuple, on le verra plus tard, ne valait guère mieux. Il était donc inéluctable que le plan de Dieu pour le salut du monde aille jusqu'à son parfait accomplissement, puisque c'est avec l'accord, l'aval du peuple que finalement l'autorité romaine décidera de faire crucifier Jésus. Pas seulement sur base du témoignage des responsables religieux. Le peuple va prendre la main de ses responsables pour mettre à mort notre Seigneur. Alors, il n'y aurait jusque-là plus aucune apparition publique de Jésus, si ce n'est la passion. Mais avant, donc maintenant, publiquement, c'est fini pour Jésus. Mais avant la passion, avant son arrestation, sa crucifixion, Jésus doit encore entretenir ses disciples en vase clos, en privé. Il doit les entretenir de choses extraordinairement importantes concernant Israël. Je rappelle qu'ils sont juifs, quand même, et ils s'inquiètent pour leur peuple, vu l'accueil du message de Jésus. Chose importante aussi pour l'histoire du monde et pour son retour en gloire. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il vous bénisse. Amen.